Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Toute personne accusée d'avoir commis une infraction jouit de la présomption d'innocence. Elle ne peut être considérée comme coupable avant d'en avoir été jugée telle par un tribunal. Cependant, il arrive que certaines personnes soient incriminées sans preuve de leur culpabilité. Alors, quelles sont les dispositions légales en ce qui concerne la présomption d'innocence? Ghislain Mouhou, vous êtes magistrat au parquet des grandes instances de la Gombe, à Kinshasa. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jeudi.
Alors, la première question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par présomption d'innocence?
Oui, la présomption d'innocence est une garantie constitutionnelle qui veut tout simplement dire que la personne qui est accusée est présumée être innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée par les cours et tribunaux. Donc, avant que votre culpabilité ne soit prouvée, parce que jadis, quand vous lisez un peu, vous allez trouver que jadis, il revenait, il y avait une présomption de culpabilité. Donc, on estimait que toute personne qui était accusée était présumée être coupable.
Oui.
Alors que, avec la Charte des Nations Unies et tout comme ça, cette notion a évolué au point de donner des dispositions constitutionnelles, notamment la notion de la présomption d'innocence. Donc, toute personne poursuivie d'un fait quelconque est présumée être innocente parce que il n'y a que les cours et tribunaux qui peuvent établir sa culpabilité. Et c'est là aussi dans le respect des normes. C'est pour ça que quand vous prenez notre constitution, à son article 17, on dit « la liberté individuelle est garantie ». Elle est la règle. La détention, l'exception. Ni ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Donc, et l'arrestation, et les poursuites, et la condamnation sont prévues. En dehors de la Constitution, vous allez trouver des dispositions du code de procédure pénale qui garantissent aussi la présomption d'innocence dans la mesure où il y a des enquêtes qui doivent être menées. Et quand on arrive pour arrêter quelqu'un et le placer en détention, il faut que l'organe de la loi, au terme des articles 27 et 28, qu'il arrive à prouver qu'il existe des indices sérieux de culpabilité qui peuvent justifier la mise en détention de la personne. Donc, l'arrestation, la condamnation ou les poursuites judiciaires ne peuvent se faire que dans les prescrits de la loi. Et les soubassements, comme on dit toujours que la Constitution c'est la loi mère, donc le fondement c'est l'article 17 de notre Constitution. En dehors des autres textes qui prévoient les mécanismes, comment la loi prévoit de quelle manière les enquêtes et les poursuites peuvent être menées.
Donc, vous voulez
tout
dire
cela
que...
entre dans ce que nous appelons, lorsque on veut évoquer la notion d'un état de droit, donc toute personne est appelée, fit-il journaliste, ou fit-elle journaliste, ou fit-elle magistrat, ou fit-elle autorité politico-administrative, ou autorité militaire ou policière, est appelée à observer l'article 17 de la Constitution. Alors, ce qui fait que nous tous nous sommes appelés, par rapport à un État qu'on appelle un État de droit, d'observer ces dimensions. Et ces dispositions sont
dans notre pays,
des règles impératives.
Oui, il y a certaines choses qui se passent ici en RDC. Avant même que la personne ne soit jugée, elle est déjà condamnée, on l'accuse de tout, on la présente à la presse, devant la télé. Voilà, ce sont les malfaiteurs que nous venons d'arrêter. Et parfois, ces personnes se cachent le visage. Allez, le policier le tire par derrière pour qu'il soit bien vu. Est-ce que, par rapport à tout cela, qu'est-ce qui est prévu?
Oui, la loi est claire. La loi est claire, heureusement vous avez évoqué cette question. Nous profitons de l'occasion parce qu'on est en face de vous, les hommes de médias.
Oui.
Je suppose qu'il y a les CESAC qui a l'obligation aussi de veiller sur le comportement de ceux qui sont le partisan de ce que moi j'appelle le quatrième pouvoir, qui est la presse. Et en dehors de ça, il est dit à l'article 32 de l'ordonnance de 78-289, je crois, en rapport avec l'exercice et les attributions des OPJ du droit commun, l'article 32 interdit. D'ailleurs, c'est dans la procédure des enquêtes que les OPJ peuvent mener. Il leur est interdit de pouvoir présenter les personnes présumées être. Comme quand on est devant les OPJ, on dit vous êtes un présumé coupable, n'est-ce pas? Mais vous jouissez de la présomption d'innocence. Alors ces personnes, on ne peut pas les présenter comme ça devant la télé. Sous peine d'être poursuivis au terme de l'article 73 du code pénal livre D tel que modifié à ce jour. Et on dit, si vous voulez présenter quelqu'un à la télévision, vous devez, l'OPJ doit s'adresser au procureur de la République. Il va lui présenter les éléments. Et par une décision motivée, le procureur de la République décide des éléments qui doivent passer à la télévision. Le procureur de la République décide même des chaînes ou des médias qui doivent faire diffuser. Ce n'est pas comme ça se passe. Et c'est à déplorer, parce que tout ça, ce sont des violations des droits de l'homme. Et vous trouverez que lorsque on a...
C'est sensationnel.
Oui, sensationnel. Et ouais. Ça, c'est ce qui remet même en cause, parfois, la justice. Parce que cette justice-là de la télévision, c'est une justice qui est rendue par des personnes non habilitées. C'est pour cela que la loi met ces personnes-là en garde au terme de l'article 79, parce qu'il dit qu'ils seront sous peine d'être poursuivis sur base de l'article 73 du code pénal livre de tel que modifié à ce jour, qui concerne de la révélation du secret professionnel. On dit toutes les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie, Or, les cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice, celui où la loi les oblige à faire connaître ses secrets, seront punis d'une servitude pénale de 1 à 6 mois et d'une peine de 1 000 à 5 000 francs. Ou d'une de ces peines seulement. Donc cela veut dire, et l'OPJ, et les journalistes, qui se permettent, parce que ce qu'ils présentent à la télévision, ce sont les éléments de l'instruction que nous appelons, parce que nous disons, l'instruction prévisionnelle est secrète. Il y a les caractères secrets de l'instruction. Ce qui fait que, pour balancer ces images, en vertu de la présomption d'innocence, les mettre à la portée du public, il faut l'autorisation du procureur. Lorsque vous le faites sans l'autorisation du procureur, vous pourrez être poursuivi sur base de l'article 73. En dehors de l'article 73, on peut considérer qu'il y a des imputations dommageables, on peut considérer qu'il y a dénonciation calomnieuse, et tout
parce que
dépend...
si après le procès, on se rend compte que la personne...
Oui, et lorsqu'on aura acquitté la personne, on dit, voilà, il n'y a pas de justice dans ce pays, et on trouve de l'occasion pour dire que les droits de l'homme ne sont pas respectés, alors que les droits de l'homme ont été violés par ceux-là qui sont appelés à les protéger.
Vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ce thème, la présomption d'innocence? Composez le 081-890-6394. Faites-nous également parvenir vos SMS au 081-711-5001.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20, et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Présomption d'innocence, qu'est dit la loi à ces sujets? Ghislain Mouéou, magistrat au parquet des grandes instances de Kinshasa Gombe, l'invité d'Okapi Service. Nous avons en ligne un auditeur, Marcel Tchaba, il est à Kananga. Marcel, bonjour. Marcel Tchaba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Alors, on vous écoute.
Oui, j'ai une question à poser à l'invité. Oui, concernant la grossesse. Dès que la fille déclare que cet homme qui m'a engrossé, même si l'homme est innocent, le juge apprécie la déclaration de la fille. Dans ce cas, la loi prévit quoi si l'homme est innocent?
Oui. Voilà, moi, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Je peux répondre à ceci. Il faut qu'on se situe par rapport de quelle manière que cette dame est tombée enceinte. Mais si c'est à l'occasion d'un viol, donc la personne est présumée être poursuivie pour l'infraction de viol et il jouit néanmoins de la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée par les cours et tribunaux. Voilà ce que l'article 17 voulait dire. Mais si ce sont des faits qui ont d'ailleurs l'article 17 dit à un de ces alinéas, nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise ou au moment de poursuite. Donc, il faut que les faits pour lesquels vous devez être interpellé en justice soient constitutifs d'une infraction. Lorsqu'il n'y a pas d'infraction, on ne peut pas vous poursuivre, on ne peut même pas vous détenir pour ça. Donc, tout cela est contenu, c'est une garantie constitutionnelle qui est contenue dans l'article 17. On se prévoit de la présomption d'innocence lorsqu'il y a déjà des poursuites et pour des faits qui sont réprimables, des faits qui trouvent leur justification dans une disposition pénale. Et pour ces faits-là, lorsque vous répondez de ces faits, vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Parce que il revient à celui-là qui allègue les faits à votre charge à pouvoir prouver votre culpabilité. C'est ainsi qu'on dit, l'organe de la loi que nous sommes, nous avons la charge. Lorsque nous amenons quelqu'un devant le tribunal, c'est pour soutenir l'accusation et obtenir du tribunal la condamnation de cette personne.
Voilà, nous avons deux autres auditeurs en ligne. Neville Kuminga, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je voudrais d'abord faire une petite mise au point par rapport à tout ce que l'invité vient de dire. Je crois qu'il faut plusieurs réformes dans le domaine de la loi au Congo. Mais néanmoins, je voudrais d'abord relever un aspect par rapport au risque de mariage. Hein, le risque de mariage, c'est le fait que quelqu'un ait accepté quelque chose volé. Alors, le receleur est d'office qualifié comme voleur. Est-ce qu'il ne peut pas bénéficier aussi de la présomption d'innocence? C'est un peu ça ma question.
Merci. Soufi Nyembo, vous êtes au Maniema, bonjour.
Oui, j'ai des préoccupations. La première, c'est celle de savoir d'abord à notre invité. À un village, il y avait 10 personnes. Avec ces 10 personnes, 5 étaient allées à la forêt pour chercher les manières de tout consort et 5 aussi étaient restées à la ville, en fait, à la campagne. Bon, il y avait parmi ces 5 qui restaient un pêcheur qui entrait de pêcher avec sa pirogue, mais la pirogue a été renversée et le pêcheur était mort. Les policiers étaient en train de fermer tous ces gens-là, 10 personnes. Mais avec ces gens, il y avait 5 qui étaient innocents et 5 qui étaient coupables. Et le second exemple, c'est celle aussi des prisonniers, 4 prisonniers à la prison, et 2 qui violaient la femme et 2 autres qui n'ont pas violé. Mais bon, la décision a été prise forte en train de cheminer tous ces prisonniers-là au prison Makala de Kinshasa. Voilà, je demande maintenant à notre invité, qu'est-ce que l'État peut faire pour les financeurs
Soupi
et
Nyembo.
Les autres qui n'ont pas les financeurs
Soupi voilà, Nyembo. Soupi, vous avez dit 10 personnes sont allées dans la forêt et au retour, la pirogue a basculé, une personne est décédée et tous les autres sont arrêtés, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'était 10 personnes, mais 5 qui étaient absents et 5 qui étaient là-bas. Bon, lorsque les policiers étaient venus, bon, ils ont fermé seulement tous les gens de cette ville sans demander quels sont les gens qui étaient présents à cet événement. Oui. Voilà, en bref.
Voilà, donc la police a arrêté toutes les personnes qui étaient là et va les acheminer à la... Oui. À la... oui. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire, hein, juste les mots.
Les circonstances de leur arrestation peuvent toujours se justifier. Vous savez, lorsqu'il y a mort d'homme, n'est-ce pas? Parce que je l'ai suivi, il peut arriver que dans la répression des faits, qu'il y ait des auteurs intellectuels, qu'il peut aussi avoir des auteurs matériels, ceux qui commettent les faits. Bon, les gens peuvent se mettre dans une association de malfaiteurs et ils font exécuter les actes par d'autres personnes. Alors, il peut arriver que les enquêtes peuvent amener à ce que, dès qu'il y a mort d'homme, toute personne retrouvée quand même sur le lieu peut être suspectée par la police. Et vous devez aussi savoir que les criminels rentrent toujours au lieu du crime. Ça, c'est parmi aussi les éléments qui entrent en ligne de compte chaque fois qu'une enquête doit être menée, que le criminel est toujours revenu sur le lieu du crime. Bien que il faut se rassurer. Non, pas arrêter. On peut interpeller les gens. Tout est fonction de la méthodologie qui peut être adoptée. Mais toutes les personnes, même si les cinq qui étaient là et les cinq qui n'étaient pas là, n'est-ce pas? Mm-hmm. Nous ne savons pas dans quelles conditions, mais nous disons que toutes ces personnes-là bénéficient de la présomption d'innocence.
Elles
peuvent être interpellées pour des raisons d'enquête. C'est pour cela qu'il est interdit de. C'est pour ça qu'on dit les enquêtes ou l'instruction préjudicielle a un caractère secret. Ce qui fait que c'est à l'issue des enquêtes qu'on peut arriver à déterminer quelle est la responsabilité de chacun. Donc, interpeller les gens, vous savez aussi que en matière, par exemple, de flagrance, la loi a prévu que même les témoins qui ont vécu les faits peuvent être privés de leur liberté et conduits sur le champ ensemble avec le prévenu devant le tribunal qui devra connaître des tribunaux compétents pour connaître de l'affaire. Mm-hmm. Alors, on peut avoir pris ces gens comme étant des témoins, n'est-ce pas? Et lorsqu'on les défère, on doit donner leur qualification. Alors, ça, c'est ce que nous appelons les violations des droits de l'homme. Donc, s'il y a des cas comme ça, ce sont des cas qu'il faut tout simplement dénoncer. N'est-ce pas? Alors, il a aussi évoqué la question des deux violeurs. Je ne sais pas si ça s'est passé où, pratiquement. Il est vrai aussi que, vous savez qu'en matière de viol, vous ne pouvez pas être témoin sans pour autant dénoncer. Parce que le viol, lorsqu'il est commis surtout, il a parlé de deux ou trois personnes qui doivent avoir violé une femme. Alors les autres là, qui ont été retrouvés sur le lieu, ils doivent permettre à la justice de pouvoir éclairer la justice.
Mais, ces personnes qu'on accuse de viol jouissent aussi de la présomption d'innocence.
Ils jouissent aussi de toute personne qui est accusée d'une infraction jouissent de la présomption d'innocence.
Bien.
On les appelle les présumés coupables, mais au terme de la constitution,
ils jouissent d'un cas de flagrance. S'il y a un cas de flagrance, par exemple,
on peut conduire même les témoins, mais toutes les personnes qui ont vécu à la commission de l'infraction peuvent être privées de leur mouvement d'aller et de venir. Et ils sont conduits immédiatement sur le champ ensemble avec le prévenu, de sorte qu'ils puissent apporter leur témoignage. Parce que s'ils se soustraient, si c'est en matière de flagrance, vous voyez que les témoins se soustraient. Les juges risquent d'être en difficulté. Vous savez que les témoignages, ça fait partie aussi des modes d'administration de la preuve, surtout en matière pénale où la preuve, elle est libre. Donc, on peut recourir au témoignage. Et si on sait que ces témoignages, c'est pour ça qu'il y a des témoins à charge et les témoins à décharge. Alors, ces personnes-là, on peut toujours arriver à...
Il y a d'autres auditeurs qui attendent en ligne. Vous voulez également participer? Appelez-nous au 081-890-63-94.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Présomption d'innocence, que dit la loi congolaise à ce sujet? Marcel Mouteba nous appelle de Goma, Hadji Mahamoud y est à Kindou et Hilaire Ntamboa et à Mbujimaï. Marcel Mouteba, bonjour.
Bonjour, monsieur. J'ai une préoccupation qui va tout droit à notre invité.
Oui.
Bon, il vient à peine de dire que la phase juridictionnelle, c'est une phase qui est secrète. Mais quel est le rôle du ministère public après avoir trouvé que le droit n'est pas respecté? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est de faire aussi son rôle que la loi lui donne, qui est rester dans son bureau pour ne rien faire. C'est pour cela que le droit est bafoué.
Bien, merci. Hadji Mahamoud de Kindou, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
Bon, j'ai au moins une petite préoccupation. Hein. Puisque si j'ai bien suivi l'invité tout à l'heure là, il a dit que toute personne accusée jouit de la présomption d'innocence. Bon, nous voulons un peu décrire ces mots-là, ces concepts-là, innocence. À quelqu'un, par exemple, qui a commis l'infraction d'adultère, il y a des preuves, il y a aussi des témoins qui sont là, et que la partie lésée a été accusée, l'autre là, on l'arrête. Dès qu'on l'arrête, c'est que le monsieur, la notaire là, juge de la présomption d'innocence. Bon, peut-être le concept là peut compliquer certains gens. Maintenant, nous voulons, est-ce que l'invité puisse nous expliquer le mot là, innocence, c'est quoi? Moi aussi, le mot là peut me compliquer.
Oui, merci. Hilaire, vous êtes Ntamboa, vous êtes en Mbujimaï, bonjour.
Bonjour, bonjour, je dis bonjour à l'invité.
On vous écoute, Hilaire.
Oui, il y a une préoccupation. J'ai une sœur qui a commis l'adultère. Maintenant, elle a été arrêtée avec le mari à qui elle a commis l'adultère. Maintenant, elle est à le district. On l'a envoyé, après 3 jours, on l'a envoyé en prison. On l'a envoyé en prison, on ne l'a pas jugé. Jusque-là, elle a fait 1 mois et demi en prison, on ne l'a pas encore jugé. Alors, le mari qui l'avait marié légalement, il ne passe même pas aux prisons. Je voulais demander, est-ce que ma sœur, là, elle juge de la présomption d'innocence? Ce que je voulais demander à l'invité Marcel.
Merci, il est en Tamboua. Nous avons également en ligne Jado depuis Bukavu. Jado, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour également à l'invité.
On vous écoute.
Ok. J'aimerais savoir que prévoit la loi en rapport à ce que... Des fois, il arrive lorsqu'il y a un fait quelconque dans les quartiers, la police entre dans les quartiers, commence à arrêter tout le monde et... Tabasser même les présumés coupables. Que prévoit la loi en rapport avec tout ça?
Merci, Jado. La police qui tabasse les présumés coupables. Revenons à la question des soupis. Non, Neville Kuminga de Kananga qui vous a posé la question de savoir est-ce qu'un receleur jouit aussi également de la présomption d'innocence?
Oui, les receleurs jouit aussi. C'est une personne qui est accusée, n'est-ce pas?
Qui a acheté un objet volé.
Oui, parce que vous savez, en fait de meubles, possession vaut titre. Vous savez, le vol, c'est une infraction qui se cristallise par le fait de déplacement même de l'objet mobilier. Alors, lorsqu'on trouve l'objet entre vos mains, on présume que, parce que le propriétaire de ce bien peut ignorer les circonstances dans lesquelles le bien est arrivé à vos mains. Parce que le propriétaire d'un bien peut retrouver sa voiture sur la voie publique et vous êtes conducteur. Il suppose que le véhicule a été volé. Il avait déjà déposé sa plainte. Lorsqu'on vous retrouve conduisant le véhicule, on présume que c'est vous qui êtes l'auteur de ce vol. C'est à vous de pouvoir démontrer que vous avez acquis ces biens pas par le vol. C'est pour cela qu'on dit les receleurs et toute personne qui détient un bien d'origine frauduleuse. Mmh. Alors, bien que on vous a retrouvé avec ce bien, vous bénéficiez nécessairement de ce que nous appelons de la présomption d'innocence. Parce que la présomption d'innocence, c'est un principe, c'est une garantie constitutionnelle. Cela n'empêche pas que, dans votre comportement, si l'organe de la loi trouve que il y a des indices de culpabilité et que la mise, parce qu'on vous a dit, j'ai commencé par vous dire que la liberté individuelle est garantie Elle est la règle. L'exception, c'est la détention. Et la détention ici n'est faite que dans les conditions prévues par la loi. Il peut arriver que l'ordre public que vous aurez troublé exige à ce que vous soyez placé en détention.
Voilà, alors
on va vous placer en détention, mais néanmoins, en vous plaçant en détention, c'est jusque à ce que les cours et tribunaux puissent établir votre culpabilité.
Il peut arriver que les parquets
ou les OPJ aient arrêté, transmis les dossiers au parquet, les parquets envoient les dossiers en fixation, mais le juge peut acquitter la personne.
Il y a un autre auditeur, on va recueillir la question de Christian Gabou. Il nous appelle de Pandroma. Christian, bonjour.
Bonjour, j'ai dit Kachama, je suis quand un autre invité.
On vous écoute, Christian.
J'ai deux questions à poser à l'invité. La première question, c'est, dit-on, la faute est individuelle. Mais ici, ce qui s'était passé un jour, un monsieur avait violé, il avait fui. Et les policiers sont arrivés chez lui pour l'arrêter. Ils ont trouvé un élève qui étudiait chez lui. Alors, ils ont arrêté cet élève-là. Ils ont dit que pour que l'élève soit libéré, on donne un montant de $50. Et c'est ce qui s'était fait. Et puis, la deuxième chose, il y a des personnes, on découvre qu'il est innocent pour aujourd'hui. Ou soit on peut même le libérer aujourd'hui. Mais, ou soit 6 mois après, la personne même va commencer à se déclarer que c'est lui qui avait fait tel acte. Donc, il commence à choquer les gens. Alors, comment on peut reprendre le dossier là?
Bien, merci Christian. Reprenons la question de Mouteba. Vous allez répondre rapidement parce qu'on a plus assez de temps. Oui. Mouteba Degou m'a dit, quel est le rôle du ministère public lorsque le droit n'est pas respecté?
Oui, le rôle du ministère public, nous l'avons toujours dit, toutefois que les faits seront dénoncés, le ministère public va mettre l'action publique en mouvement. Et son rôle est celui de mettre l'action publique en mouvement. Et nous n'avons pas seulement reçu mission de mettre l'action publique, mais de rechercher aussi les infractions, n'est-ce pas? Et ici, pour rechercher les infractions, nous avons aussi les auxiliaires de la justice, que nous appelons les OPJ, qui sont nos yeux et nos oreilles, qui nous facilitent cette tâche, avant que l'organe de la loi ne soit informé. C'est pour cela que nous disons, toute violation des droits de l'homme doit être dénoncée à la police, ou au besoin au parquet. Lorsque vous les dénoncez, une plainte, une action pénale sera mise en mouvement. Donc la dénonciation, est que moi je considère toujours la dénonciation, c'est la clé. Vous voulez démarrer un véhicule, si vous n'avez pas de clé de contact, le véhicule ne peut pas démarrer. À moins que vous utilisez d'autres méthodes.
Donc il faut commencer par
il
dénoncer.
Il faut toujours dénoncer.
Bien.
Alors, ceux-là qui sont victimes doivent dénoncer. Et s'ils dénoncent, je pense que la justice va se mettre. Parce que si les magistrats refusent de faire son travail, on peut le poursuivre pour déni de justice.
Voilà, Hadji Mahamouti de Kindou dit, quelqu'un qui a été arrêté après avoir commis l'adultère, est-ce que cette personne jouit de la présomption d'innocence?
Oui, je dis, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas une décision, parce que la Constitution veut que ces témoins-là peuvent avoir permis tout simplement au ministère public de les placer en détention. Donc, donner les indices qui peuvent permettre à ce qu'on puisse arrêter la personne. Et on l'arrête, mais la présomption d'innocence, il continue à bénéficier de cette présomption d'innocence jusqu'à ce que les cours et tribunaux puissent établir. Je peux vous donner un cas en matière d'adultère. À supposer que c'est le conjoint offensé qui a envoyé sa femme aller commettre l'adultère. Les gens peuvent avoir vu cette femme, c'est pour cela qu'on dit, ce sont des infractions qui nécessitent la plainte préalable de ce qui la personne qui est offensée. Et que cette personne offensée, lorsque elle se désiste, cette action qui est née de sa plainte est appelée à être éteinte.
Voilà,
ça, c'est
voilà.
Le législateur
qui a parlé de sa sœur qui avait commis un adultère et se retrouve en prison depuis un mois.
Oui, et si elle se retrouve en prison, j'estime que les faits étaient cristallisés. Et si les faits sont cristallisés, à moins qu'il y ait désistement volontaire de l'époux offensé, mais sa sœur, il doit savoir que sa sœur bénéficie jusqu'à preuve du contraire de la présomption d'innocence jusqu'à ce que le cours et tribunaux puissent statuer sur son cas.
Mais apparemment, il n'a jamais été jugé, mais se retrouve en prison.
Non, cela veut dire qu'il y a le temps que le procès peut prendre. Donc, il y a la phase préjudicielle et il y a la phase aussi juridictionnelle. Donc, peut-être le dossier, c'est question qu'on puisse bousculer le ministère public s'il a déjà terminé l'instruction préjudicielle, il n'a qu'à envoyer le dossier en fixation pour que cette dernière connaisse son sort. Parce que le sort ici, que, dont attend, c'est pour ça que le législateur dit toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.
Donc,
le jugement définitif, c'est le jugement qui a déjà acquis l'autorité de la chose jugée et qui a respecté toute le voie de recours comme il est prévu en matière pénale.
Jado nous raconte à Bukavu, parfois quand il y a un problème dans un quartier, la police débarque, on arrête tout le monde, tous les suspects, et la police tabasse les gens, alors que ces personnes ne sont pas encore jugées.
Oui, ça c'est tout ce que nous appelons les dérapages. Oui. On appelle ça les dérapages ou les excès de zèle de certains éléments de la police. Ce sont des faits à pouvoir dénoncer si ça ne constitue que d'infractions à leur égard et on peut les poursuivre pour ça.
Alors on va terminer avec Lama qui nous appelle de Bukavu. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Lama.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais poser ma question au magistrat qui est sur le plateau. Ma question va toucher pratiquement des volets parce que nous savons que depuis l'histoire des temps, les pouvoirs ont été séparés par Montesquieu. Il y a les pouvoirs judiciaires, il y a les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. Je m'en vais dans un cas précis d'un honorable député, Adolphe Onosumba, qui a été poursuivi pour viol. Bon, en vertu du principe de la présomption d'innocence, je voudrais savoir, de par son statut de député, il est couvert par ce qu'on appelle les immunités parlementaires. Est-ce que ces immunités ont été levées avant sa mise en accusation? Parce que là, je voudrais saisir l'autorité, c'est-à-dire le président du Parlement, lui qui est un ancien magistrat. Si le Parlement s'était réuni pour d'abord lever les immunités de ces députés, parce que c'est une personne qui jouit pratiquement des immunités. Bon, à deuxième volet, j'arrive sur le pouvoir judiciaire. Nous avions suivi ce procès et que les députés avaient été mis en résidence surveillée. Là, nous allons toucher le PGR. Est-ce que le PGR, lui qui est appelé à garantir les droits, est-ce que la notion de résidence surveillée peut s'étendre en prison? Depuis quand une personne en résidence surveillée peut être surveillé en prison, parce que nous savons que la résidence surveillée, c'est une sorte de détention préventive
merci
pour les unitaires.
Oui, merci Lama.
Des justiciables dans cette terre.
Oui, merci Lama pour cette
alors,
question.
Alors, je veux savoir si cette présomption d'innocence est vraiment un principe constitutionnel garanti et respecté.
Merci.
Voilà, moi, ma question.
Merci Lama. Vous allez répondre en quelques minutes parce qu'on va terminer bientôt.
Oui, j'y vais. Je dis d'abord que le principe d'innocence est une garantie constitutionnelle. C'est l'article 17 de la Constitution qui est la base ou le fondement juridique. Alors, s'agissant de cas de flagrance, je renvoie tout simplement l'auditeur à la lecture de l'article 107 de la Constitution en ce qui concerne les immunités parlementaires. Le législateur, qui est d'ailleurs celui à qui lui a fait allusion, le constituant, a prévu le mécanisme. Il a estimé tout simplement que toutes les fois qu'il s'agira d'un cas de flagrance, on n'aura pas besoin de recourir ni au bureau de l'Assemblée, moins encore à la plénière pour obtenir la levée des immunités, parce que les législateurs, en dehors de cet article 117, quand vous prenez la loi sur les violences sexuelles, les infractions contre les violences sexuelles, le législateur a encore renforcé le clou.
Il a renforcé le clou.
Et en faisant en sorte que toutes les fois qu'il y aura un cas de flagrance par rapport aux violences, les immunités parlementaires sont supposées être levé par le fait tout simplement du cas de flagrance. Donc on n'aura plus besoin de recourir aux immunités parlementaires. S'agissant de la résidence surveillée, parce que les gens veulent comprendre la notion de la résidence surveillée comme ça s'est dit dans les jargons militaires où on dit on met quelqu'un en résidence surveillée, on est en train de il reste chez lui à la maison. Ici, la résidence surveillée, quand vous prenez la loi sur la procédure devant la Cour suprême de justice, c'est une forme de détention préventive en ce qui concerne ces personnes. On aurait bien souhaité.
Donc
que,
on peut être en résidence surveillée
en
prison.
On ne parle pas de la résidence surveillée, on parle de l'assignation à résidence surveillée. Donc on vous assigne à résidence surveillée. Et les lieux C'est lui qui vous assigne. C'est lui qui doit vous garantir. C'est la personne qui a la charge de pouvoir répondre en cas de l'évasion. Et ici, les lieux appropriés pour certaines personnes où nous avons plus la sécurité, c'est le centre, c'est la prison. Et puis la prison, elle n'est pas toujours à prendre comme seulement le lieu où se trouvent les condamnés. À la prison, là-bas, il y a une maison d'arrêt où les personnes qui sont en détention préventive, que nous appelons les prévenus, qui sont en détention préventive, doivent y demeurer. Alors, à ce moment-là, on peut assigner cette personne dans cette résidence-là. Et ici, il faudrait savoir que lorsque la procédure est celle de flagrance, la détention préventive n'est ordonnée que par le tribunal qui a saisi la cour qui a été saisie des faits en matière de flagrance. Voilà un peu si je peux me permettre de répondre. Donc, l'appréciation de la résidence, de l'assignation à résidence surveillée n'est pas de la volonté de X, Y, ce n'est que de la volonté du législateur qui a voulu que on assigne certaines personnes. Si on avait des maisons d'arrêt, si on avait des maisons de maisons de l'État où on pouvait facilement assigner ces personnes, et puis un cas est arrivé, on l'avait assigné dans une chambre d'hôtel, donc cela veut dire il revient à la personne au pouvoir. Dans les principes de la séparation des pouvoirs, le procureur général de la République,
on aura le temps de revenir une prochaine fois. On aura l'occasion. On aura l'occasion d'y revenir. C'est tellement intéressant. On va y revenir une prochaine fois. Ouais. Pour l'instant, on s'arrête là. Je rappelle que vous êtes Ghislain Mouhou, magistrat au parquet des grandes instances Kinshasa Gombe. Merci. Bon début de semaine et à la prochaine.
Merci beaucoup. Au capé.